autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce que l'énergie? D'où vient-elle? Comment est-elle stockée? Comment se dégrade-t-elle? Comment les êtres vivants l'utilisent-ils? Qu'est-ce que la photosynthèse? Quel est le rapport entre l'énergie et les changements climatiques? Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre? Quelles sont les énergies les moins polluantes? Pourquoi le cours du pétrole est-il en baisse? Quel est l'avenir de la transition énergétique? Autour de la question, l'énergie est-elle moteur du progrès? La réalisation est signée Charles Pélabon. Bonjour Paul Matisse.
Bonjour Madame Joubert.
Vous êtes ingénieur agronome et docteur en sciences physiques. Vous avez dirigé le centre de recherche bioénergétique à Saclay et vous publiez aux éditions Quae l'énergie moteur du progrès avec un point d'interrogation, c'est important. Le livre est construit en 120 questions. Alors on a toujours considéré que l'énergie comme favorable au progrès, hein, allant dans le sens du progrès. Et aujourd'hui il semblerait que la courbe s'inverse. C'est pour cette raison que vous avez choisi ce titre ?
Oui, c'est exact. En fait, l'énergie est depuis très longtemps un élément essentiel dans les progrès de l'humanité. À commencer par l'utilisation du bois pour se chauffer, puis pour faire des tas d'autres choses. Donc en fait, toute l'histoire de l'humanité est marquée par un développement et des progrès dans les usages de l'énergie. Et en fait, la plupart des progrès matériels consistent en une meilleure utilisation d'énergie, en utilisant d'autres énergies, effectivement. Maintenant, comme vous dites, on voit maintenant des limites à ces progrès. Et, en deux mots quand même, la raison de ces limites, c'est que les énergies les plus utilisées actuellement, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles.
C'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon.
Exactement. Exactement. Ils représentent à eux trois 80-81% des énergies utilisées à l'échelle mondiale.
Ce qui est énorme.
Bon, a priori, il n'y a pas de problème. Sauf que l'utilisation de ces énergies se fait par ce qu'on appelle une combustion. C'est-à-dire qu'on les brûle en utilisant l'oxygène de l'air et ils se dégagent de façon inéluctable du dioxyde de carbone, CO2. Qui est un gaz qui s'accumule dans l'atmosphère. Il s'accumule et il y reste longtemps, un temps qui est de l'ordre de la centaine d'années, et il engendre ce qu'on appelle un effet de serre, c'est-à-dire qu'il va entraîner une augmentation de la température terrestre, et ça, c'est un grave problème, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est pour cette raison que de continuer d'utiliser ces combustibles à l'avenir et donc de baser notre développement économique sur ces combustibles n'est pas réellement possible.
Voilà, uniquement sur ces combustibles. Et on va voir aussi, c'est très important dans votre livre, combien l'énergie est un sujet éminemment politique. Autour de la question l'énergie est-elle moteur du progrès? Quelques pistes de réflexion avec le mix forcément énergétique de Charles Pélabon.
En une fraction de seconde, le Big Bang crée toute l'énergie contenue aujourd'hui dans l'univers. Cette énergie alimentera tout, des étoiles aux êtres vivants.
Pour faire des choses, il faut beaucoup d'énergie.
Il y a deux grandes familles de sources d'énergie. La première, ce qu'on appelle les énergies de stock, c'est-à-dire des énergies qui sont extraites de la croûte terrestre.
Il y a un Eric dans mon jardin, il y a un Paplaine chez mon voisin. C'est la folie qui salit le pétrole.
Qu'est-ce que vous comptez faire avec de l'essence?
La première source d'énergie dans le monde est le charbon. Et oui, c'est la plus polluante et pourtant, à l'heure du changement climatique et des belles déclarations d'intention sur les énergies vertes, bienvenue dans un monde de suie.
Je suis abonné au gaz.
Et la deuxième famille, ce sont les énergies de flux ou énergies renouvelables.
Énergie marémotrice, hydraulique ou géothermique.
C'est comme l'énergie éolienne, on en parle mais on n'en a pas. Quoi.
Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout.
La chlorophylle est capable d'absorber la lumière. Elle la transforme en énergie chimique. C'est la photosynthèse.
Le bois utilisé dans votre maison, par exemple, conserve le CO2 stocké. Utiliser le bois, c'est contribuer à limiter l'effet de serre. Je dis oui au bois, pour dire non au CO2.
Un tiers de l'humanité n'a pas accès à l'électricité et vit ainsi dans le noir, une fois le soleil couché, sans télé, sans internet, sans climatiseur.
Est-ce que tu sais ce qu'il y a sur le toit là ?
C'est des panneaux solaires.
95% de l'énergie est stockée de façon hydraulique.
Oui, mais la révolution, c'est les piles.
On peut aussi travailler sur la flexibilité des usages, de façon à utiliser de l'énergie quand elle est disponible.
Oh ! Il n'y a plus d'essence.
Voilà, Paul Mathis.
Tout est dit.
Tout est dit. Oh, les pistes sont lancées, les questions sont posées. J'ai employé tout à l'heure l'expression mix énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire un mix énergétique ? C'est la part de chaque énergie utilisée dans l'ensemble de l'énergie consommée.
Un mix énergétique, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on raisonne à l'échelle d'un pays, par exemple, il est pratiquement très très rare qu'un pays utilisera une seule forme d'énergie et il en utilisera plusieurs et c'est un mélange, donc un mix de différentes énergies. Et en fait, c'est pas tout à fait exact. Certains pays, si on prend par exemple les pays africains, peut-être 80% de leur énergie provient de la biomasse. Donc leur mix énergétique, en un sens, est réduit à pratiquement la biomasse. Et en fait, c'est une limitation, parce que utiliser surtout de la biomasse engendre des problèmes de non-renouvellement. Théoriquement, donc, c'est une énergie renouvelable, à condition...
Des plantes, enfin des arbres...
Oui, on appelle biomasse l'énergie produite par les plantes, si vous voulez. Évidemment, elle sera renouvelable si on laisse à ces plantes le temps de repousser. Maintenant, si on utilise les arbres, par exemple, à un rythme plus rapide que leur croissance, leur développement, ce ne sera pas renouvelable. C'est un des problèmes majeurs qui se posent dans pas mal de pays en développement.
Alors, il y a beaucoup pas d'idées reçues, mais justement, vous luttez contre de nombreuses idées reçues concernant l'énergie dans ce livre, l'énergie moteur du progrès. On sait pas bien ce que c'est, en fait, l'énergie. On a tendance à confondre énergie, carburant. Comment on la définit, cette énergie, Paul Mathis?
L'énergie, c'est très difficile à définir. Demandez à n'importe quel professeur de physique de définir l'énergie, vous verrez, il ne saura pas la définir. L'énergie, c'est ce qui permet de faire quelque chose. Dès que l'on fait quelque chose, on utilise de l'énergie, et on va utiliser l'énergie sous différentes formes. Sous forme de chaleur, sous forme d'électricité, sous forme d'énergie mécanique, etc. Et en fait, la caractéristique de l'énergie, c'est que ça peut prendre différentes formes. On passe d'une forme à une autre, ce qu'on appelle une interconversion. On va passer de chaleur en énergie mécanique, on va passer de l'électricité également en énergie mécanique ou en chaleur. Et tout ça, c'est toujours de l'énergie. Et en fait, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'on peut le mesurer. On peut mesurer cette énergie. Et les mêmes unités de mesure sont valables quelle que soit la forme d'énergie. Donc il y a là des particularités, la définition de l'énergie est très difficile, mais sur le plan quantitatif, sur le plan physique, c'est quelque chose de bien défini, qui peut se mesurer et qui par ailleurs se conserve. C'est une propriété fondamentale, l'énergie se conserve.
Elle se conserve mais elle se dégrade.
Ah, là, vous posez une question beaucoup plus difficile. Elle se conserve, déjà. Voilà. Et quand on dit que l'on consomme de l'énergie, je ne sais pas si vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, on consomme de l'énergie. Non, on ne consomme pas d'énergie. On va consommer du charbon, par exemple. On va consommer du charbon en le brûlant. Et c'est vrai que le charbon va disparaître. Et on va faire de la chaleur avec ça. Mais l'énergie qui était dans le charbon, ou plutôt qui était dans l'ensemble charbon-air, si vous voulez, ben cette énergie est toujours là. Elle est maintenant sous forme de chaleur. Donc, elle a changé de nature. Mais, effectivement, vous dites qu'elle se dégrade. C'est vrai, quand vous considérez les formes d'énergie, on peut passer de l'une à l'autre dans certaines directions, mais pas dans toutes. Mmh. Avec de la chaleur, vous allez pouvoir faire de l'énergie mécanique, mais pas à 100%. Par contre, de l'énergie mécanique, vous pourrez la transformer en chaleur à 100%. De l'électricité, vous pourrez en faire de la chaleur à 100%.
Donc l'énergie mécanique, c'est pour faire rouler une voiture, par exemple.
L'énergie mécanique, c'est, par exemple, faire rouler une voiture, oui. Excusez-moi, j'utilise un mot compliqué pour quelque chose de simple. Mais l'électricité, vous pouvez la convertir entièrement en chaleur. Par contre, quand vous avez de la chaleur, vous pourrez en faire peu d'électricité. Le rendement de conversion de chaleur en électricité sera de l'ordre de 40%. Ça veut dire que quand vous avez de la chaleur, vous faites de l'électricité, 40% va faire effectivement de l'électricité et les autres 40% sera de la chaleur. Mais cette chaleur sera à plus basse température et donc moins intéressante. À mesure que vous allez baisser la température de la chaleur, ce sera de moins en moins intéressant. Jusqu'à ce que ça ne permette même pas de se chauffer, auquel cas ça n'a plus d'intérêt. C'est ça la dégradation d'énergie, c'est qu'elle est toujours là en quantité d'énergie, mais elle est moins intéressante pour les besoins des humains.
Alors, avant de parler des énergies fossiles, avant de parler des rapports entre l'énergie et le vivant, je voudrais qu'on revienne aux origines. Nous recevions hier la biologiste Marie-Christine Morel, qui travaille sur les origines de la vie, précisément. Elle avait une question à vous poser, Paul Matisse.
Pour que la vie se soit constituée aux origines, pour que le vivant donc prenne mouvement, forme et dynamique, il a fallu évidemment de la matière. Après que les ondes soient transformées en particules et puis que cette particule ait constitué la matière, les atomes, les molécules, etc. Et bien pour que tout cela existe, évidemment, il a fallu de l'énergie. Donc on connaît des formes d'énergie classiques aujourd'hui, l'énergie mécanique, l'énergie thermique, l'énergie électrique, la lumière, etc. Mais il y a une conversion entre la matière et l'énergie. Et comment cela s'est-il passé réellement aux origines ?
C'est la question qui m'est posée.
Oui.
C'est une question compliquée et ça, je ne peux pas y répondre, si vous voulez. Il se passe que effectivement, il y a une certaine forme d'équivalence entre matière et énergie. Et quand vous avez la matière dans certaines formes, par exemple dans le soleil, cette matière se convertit partiellement en énergie. Donc, dans le soleil, il y a des réactions entre différents isotopes de l'hydrogène. Qui se font dans des conditions très particulières de température, de pression, etc. Vous avez de nouveaux isotopes qui sont formés dont la masse totale est plus faible. Et donc, une partie de la masse des noyaux a été transformée en énergie. Cette énergie se trouve sous forme de chaleur ou de lumière. Et ça, cette lumière est envoyée par le soleil, on la reçoit, et c'est celle qui permet à la Terre d'avoir, comment dire, de la chaleur, de la lumière pour faire pousser les plantes, etc. Donc c'est ça le mécanisme de transformation de la matière en énergie. Mais en ce qui concerne la Terre, si vous voulez, la Terre reçoit l'énergie, effectivement, sous forme de lumière venant du Soleil. Elle a aussi une énergie interne, comment dire, au centre de la Terre, où il y a des atomes radioactifs qui se désintègrent avec émission de chaleur. Voilà, il y a encore une énergie mécanique due aux marées. Voilà les trois grandes formes. Mais essentiellement, c'est ce qui provient du Soleil. Et donc, ça provient effectivement de la matière du Soleil qui, dont la quantité diminue progressivement, mais très lentement. Disons que le Soleil en a pour, je ne sais pas moi, entre 5 et 10 milliards d'années à vivre, je dirais, à émettre de la lumière comme maintenant. Donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, quoi.
Alors, on va voir notamment comment les plantes utilisent cette lumière. On va aussi parler des êtres humains et de tous les êtres vivants, juste après Yael Naïm, Dream in My Head, sur RFI.
I lay
Dream in my head sur RFI. Paul Matisse, dans ce livre L'énergie moteur du progrès, on apprend beaucoup de choses extrêmement concrètes, comme par exemple que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'un tiers de morceaux de sucre pour monter 4 étages. Mais est-ce qu'il existe une manière commune à tous les êtres vivants d'utiliser l'énergie ?
Une manière commune, là vous posez une question à laquelle j'ai pas beaucoup réfléchi. Disons que les êtres vivants, on va dire qu'il y a deux classes d'êtres vivants. Et la première classe, c'est ce qu'on appelle les organismes autotrophes, c'est-à-dire les plantes. Les plantes savent utiliser l'énergie de la lumière.
Voilà.
Et elles convertissent l'énergie de la lumière en énergie chimique, je dirais. On va dire, pour simplifier, des sucres.
C'est la photosynthèse, hein, c'est ce qu'on appelle
la photosynthèse. C'est par le mécanisme de photosynthèse. Donc les plantes ont cette particularité tout à fait unique et essentielle, si vous voulez, d'utiliser l'énergie solaire. Maintenant, une fois que la photosynthèse a fonctionné, on a, pour simplifier, on a des sucres et d'autres molécules. Ces sucres seront utilisables par tous les autres organismes vivants. Ils seront utilisables par les bactéries, par les champignons, par les animaux supérieurs, etc. Tous ceux-là vont utiliser ces mêmes molécules d'une façon qui n'est pas identique, mais qui a beaucoup de choses en commun, si vous voulez. En particulier, il va s'agir de produire un vecteur énergétique qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate. Excusez-moi, c'est
voilà, ça c'est essentiel. Hein.
Compliqué, c'est essentiel, c'est fondamental. Et ça, une fois que c'est produit, donc à partir du sucre, on fait de l'ATP. Et avec l'ATP, on va pouvoir faire n'importe quoi. Par exemple, on pourra faire la contraction musculaire.
Voilà.
On pourra faire fonctionner le système nerveux. On pourra synthétiser, fabriquer de nouvelles molécules. Donc, à votre question initiale, je dirais qu'il y a deux grandes classes, je dirais, d'utilisation, de manipulation de l'énergie parmi les êtres vivants, ceux qui font la photosynthèse et ceux qui utilisent les produits de la photosynthèse.
Donc, autotrophes et hétérotrophes.
Voilà.
C'est comme ça qu'on dit.
Vous avez bien appris votre leçon. Les premiers disent autotrophes parce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils sont autosuffisants, je dirais. Les deuxièmes, hétéros, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de molécules qui proviennent d'autres organismes et, en gros, les plantes, quoi. Voilà.
Est-ce que le rôle à l'échelle de la planète de la photosynthèse est très important? Enfin, quel est-il à l'échelle de la planète?
D'après ce que je viens de vous dire, si vous voulez, vous voyez bien que c'est un rôle essentiel. D'abord, ça fournit les molécules qui vont servir à tous les autres organismes, aux humains en particulier. Donc, c'est l'aspect moléculaire alimentation, je dirais. Mais ça va nous permettre d'avoir aussi le bois, qui va permettre de faire des habitations, etc. Mais ça a permis, au cours des millions d'années qui nous ont précédés, de fabriquer les combustibles fossiles dont on parlait tout à l'heure, le charbon, etc. Et n'oublions pas que la photosynthèse dégage de l'oxygène. Et cet oxygène, qui est celui de l'air, c'est celui qu'on respire.
Autour de la question « L'énergie est-elle moteur du progrès ?», nous allons parler de la pollution et de la transformation des déchets juste après les informations sur RFI. Paul Matisse, vous restez avec nous.
De la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, l'énergie est-elle moteur du progrès, avec Paul Matisse, ingénieur agronome et docteur en sciences physiques, auteur du livre L'énergie, moteur du progrès, paru chez Quae, 120 questions pour comprendre les énergies. Alors Paul Matisse, tous les pays du monde ne sont pas égaux face à l'énergie en termes de besoins, en termes de production, d'approvisionnement et pas non plus face à la pollution. L'énergie peut-elle être dangereuse pour la santé? Écoutez l'exemple du Kenya, grand utilisateur de charbon de bois.
Comme chaque matin, Awa a acheté son charbon de bois, 5 à 6 morceaux, qu'elle entasse dans un sachet plastique. Bien utilisés, ils serviront à la famille toute la journée. Un rituel pour plus de 80% de la population de Nairobi, pour laquelle ce combustible est vital. Dans ces quartiers d'extrême pauvreté, chaque famille en utilise entre 10 et 12 kilos par jour. Il sert à la cuisson et au chauffage de l'eau. Et même si tous en connaissent les dangers, il est souvent la seule source de chaleur dans ces habitations humides où la température n'excède pas les 14 degrés en saison des pluies. Le charbon de bois est pourtant un poison. Selon un rapport de l'UN Habitat, il serait responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes chaque année en Afrique noire. Son utilisation est surtout d'ordre économique. Il coûte de 2 à 3 fois moins cher que le gaz et 10 fois moins cher que l'électricité.
Beaucoup plus de victimes, dites-vous, Paul Mathis.
Oui, je suis un peu étonné des chiffres donnés par la personne qui s'exprimait. En fait, si vous voulez, les enquêtes épidémiologiques de l'Organisation mondiale de la santé concluent à ce que environ, je dirais, 2 millions de personnes chaque année meurent à cause des pollutions engendrées, pollutions domestiques, au niveau des foyers, engendrées par la combustion du bois ou du charbon de bois. C'est peut-être difficile de faire la part du bois et du charbon de bois. Le charbon de bois n'est pas une forme trop mauvaise par rapport à d'autres formes de biomasse. Et moi, je dirais que c'est beaucoup plus que quelques milliers de décès chaque année dus à cette forme d'énergie.
Mais donc, la combustion du bois, si par exemple on prend notre bon vieux de feu de cheminée dans notre maison, ça émet des particules, c'est dangereux pour la santé.
C'est dangereux pour la santé, c'est exact. Alors, je dirais qu'il y a 300 ans, on utilisait ça sans problème, mais on ne se souciait pas. Les pneumonies, les maladies pulmonaires et cardiovasculaires, ça faisait partie des choses qui étaient inéluctables, si vous voulez. Voilà. Or, maintenant, on sait que la combustion du bois engendre ce qu'on appelle des particules fines. Voilà. Donc, en particulier si le bois est mal brûlé, ce qui arrive souvent pour deux causes possibles, ou bien le bois n'est pas bien sec, ou c'est du mauvais bois, c'est-à-dire que ce sera des déchets, première raison. Deuxième raison, la température du foyer n'est pas suffisante. Et donc le bois brûle mal. Brûlant mal, il se transforme pour une bonne partie en déchets, qui seront des particules fines, ou des hydrocarbures polycycliques, enfin peu importe, disons des poisons, qui seront respirés par les gens qui sont là. Ils vont les respirer et ces poisons vont rentrer dans les poumons, diffuser jusqu'au bout des alvéoles, entrer dans le sang et engendrer des problèmes cardiovasculaires et des problèmes pulmonaires. Y compris aussi d'ailleurs des problèmes, danger, je dirais, de cancer. Mais le danger du cancer est réel, mais certainement beaucoup moindre que celui des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est tout à fait exact. Même chez nous, l'utilisation du bois dans des foyers, ou dans des foyers à feu ouvert.
Sans vitre par-dessus.
Sans vitre, c'est pas à cause de la vitre qui va empêcher la sortie de la fumée, c'est parce que lorsqu'on a un insert en particulier, la température du foyer sera beaucoup plus élevée, donc la combustion de bois se fera beaucoup plus intégralement, et donc en donnant beaucoup moins de particules.
Si on fait une échelle, quels sont les combustibles les plus polluants et les moins polluants?
Ah, écoutez, ça va dépendre un peu de la façon dont on les utilise. On voit bien que si le bois est bien utilisé, comme il pourrait l'être maintenant chez nous, je dirais, pour des alimentations de chauffage collectif, là, on peut avoir de bonnes, peu de pollution. Alors, ce qui est à l'échelle mondiale, la source majeure de pollution, c'est le charbon. Parce que le charbon, là, je dirais qu'on n'y peut pas grand-chose. Il va de toute façon, dans sa combustion, émettre des particules, émettre différents produits dangereux, des métaux, des oxydes d'azote et de soufre, etc., qui seront respirés. Donc le charbon est certainement le polluant majeur, mais je dirais que à peu près à égalité avec le bois. Et le bois, chez nous, c'est assez faible, mais comme je vous disais, dans les pays en voie de développement, où ils ont des foyers à très mauvais rendement, ils utilisent des bois de variés, souvent de mauvaise qualité, ils auront des pollutions énormes.
Mais pourtant, le charbon aujourd'hui est très utilisé, Paul Mathis.
Oui, justement, le charbon est très utilisé.
Malgré ça.
parce que c'est un combustible bon marché. Par contre, quand même, je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure, où une personne qui a parlé, elle a dit que le charbon était le combustible majeur au niveau mondial. C'est pas tout à fait exact. Le pétrole est quand même la source majeure d'énergie. Mais actuellement...
Le charbon est en hausse quand même.
Voilà, le pétrole plafonne alors que le charbon se développe. Et donc, il est possible que dans 20 ans, le charbon sera la source majeure d'énergie au niveau mondial. Et c'est un vrai problème pour ceux qui les pays qui utilisent beaucoup le charbon.
Alors si vous voulez, la Chine par exemple,
mais aussi la Turquie, la Russie, la Mongolie, beaucoup de pays. En fait, le charbon est bon marché parce qu'il ne paye pas, c'est dommage. Hein, si on faisait payer au charbon tous les dommages qu'il engendre, évidemment, il serait beaucoup plus cher, mais il ne paye pas. Alors, troisième combustible, je dirais, source de pollution, ben c'est le gazole et le fioul, qui émet pas mal aussi de particules, émet pas mal d'oxyde d'azote, etc. Mais il vient en troisième, si vous voulez. Maintenant, dans certains cas, dans les villes, par exemple, comme une ville comme Paris ou d'autres, où il y a beaucoup de véhicules qui marchent au diesel, ben évidemment, à Paris, je dirais que la source majeure de pollution atmosphérique, c'est le diesel.
Mais de moins en moins quand même, puisque les États font quand même des efforts pour réduire la part du diesel.
C'est vrai, les États annoncent qu'ils vont faire des efforts pour réduire la part du diesel, mais actuellement ça ne se manifeste pas, si vous voulez. Il se trouve qu'en France, le diesel est très utilisé. Bon, il y a des mesures qui sont annoncées pour le moins l'utiliser, et surtout pour que les normes beaucoup plus exigeantes soient appliquées aux nouveaux moteurs. Mais les faits sont là, les vieux moteurs sont toujours en place. Progressivement, le diesel mal utilisé par les vieux moteurs va diminuer, mais pour le moment, il est toujours là, si vous voulez.
Oui, ça prend du temps de remplacer le parc automobile. Alors, nous allons voir quelles sont les alternatives, les solutions moins polluantes, moins dommageables pour le climat. L'un des chapitres de votre livre s'intitule « Les déchets, nouveau pétrole vert ». Écoutez cet exemple au Vietnam avec des déchets de poissons.
Dans cette immense fabrique d'aquaculture située dans le delta du Mékong au sud du Vietnam, 120 tonnes de panga frais sont traitées ici chaque jour. Les poissons sont placés dans des filets, puis congelés et emballés, prêts à être livrés aux marchés européens et asiatiques. Les 80 tonnes de déchets et de carcasses qui subsistent finissent en huile de poisson. Mais c'était avant que des scientifiques affiliés à un projet de recherche de l'Union européenne proposent de les transformer en un précieux biodiesel.
Donc ici, dans notre usine pilote, nous récoltons l'huile de poisson, nous la pompons dans le réacteur où elle est chauffée. Nous utilisons ensuite du méthanol que nous mélangeons avec un catalyseur, puis nous ajoutons le mélange qui en résulte à l'huile de poisson. Le produit final est nettoyé plusieurs fois. Résultat, le biodiesel se sépare du reste et il est stocké.
Nous allons vérifier la quantité d'électricité requise pour faire fonctionner l'ensemble du système. Et puis nous déterminons ensuite la quantité totale de biodiesel produite par l'usine et enfin la quantité d'électricité que le générateur sera capable de transformer avec ce biodiesel. Idéalement, nous espérons qu'à pleine capacité, cette usine puisse se révéler très efficace d'un point de vue environnemental.
Et le biodiesel obtenu ainsi pourrait permettre de générer jusqu'à 150 MWh à un rythme quotidien, assez pour fournir l'électricité nécessaire à l'usine de poissons et aussi, selon les chercheurs, à toute la communauté avoisinante qui dépend essentiellement des activités de pêche.
Réaction, commentaire, Paul Matisse ?
Oui, mon commentaire, c'est que voilà quelque chose qui est peut-être intéressant. Mais j'ai remarqué quand même que la personne était prudente.
Oui.
Elle dit « nous espérons qu'elle pourrait se révéler ». Vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui montrent qu'il n'est pas sûr du tout. Moi, voilà quelque chose qui semble intéressant, mais avant d'avoir un jugement définitif, il faudra en faire un bilan complet. Il arrive très souvent que des choses semblent intéressantes. Quand on fait un bilan complet, ma foi, on s'aperçoit que c'est un peu décevant. Maintenant, il est vrai que les déchets doivent être valorisés au mieux. et il faut voir, en fonction de tel et tel déchet, qu'est-ce qu'on peut en faire de mieux.
Voilà, alors quelles sont les pistes, quel type de déchets on peut valoriser, Paul Matisse?
La valorisation la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la valorisation matière. En fait, il y a des matériaux, les déchets sont constitués de matériaux, et on peut en faire d'autres matériaux. Généralement, c'est ce qu'il y a le plus intéressant. C'est ce qu'on appelle la chimie biosourcée, c'est-à-dire la chimie qui trouve sa source dans des matériaux biologiques. Et en fait, là, il y a sans doute une voie extrêmement importante. Alors, je ne peux pas juger pour les déchets de poissons, mais a priori, on pourrait peut-être penser que ce soit une source intéressante quand même d'autres produits chimiques. Alors ensuite, si on voit la question énergétique, alors là, il y a plusieurs possibilités. La possibilité la plus importante, c'est de brûler. Vous allez pouvoir brûler directement vos déchets, et ça, vous allez faire de la chaleur, vous allez faire de l'électricité, c'est ce qu'on appelle l'incinération.
Donc certaines usines le font déjà, par exemple la sciure, ça peut servir à ça.
Absolument. La sciure, si vous avez dit la sciure, on peut en faire des bois agglomérés qui pourraient être transportés, etc., servir. Donc la sciure, c'est quelque chose dont on peut faire beaucoup de choses. En faire directement de l'incinération, moi, ça me paraît un petit peu dommage, si vous voulez. Par contre, les déchets ménagers, qui peuvent se ranger en deux catégories, ceux qui sont un peu plus secs et ceux qui sont humides. Ceux qui sont humides, ils sont intéressants pour faire ce qu'on appelle la méthanisation. On fait du biogaz. Et ça, c'est quelque chose qui marche, qui se fait couramment, qui se répand. Donc là, on a de l'énergie, on a du gaz. Deuxièmement, les déchets secs, on peut les brûler. Et à ce moment-là, on a de la chaleur et de l'électricité. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et en fait, en France, c'est un mauvaise presse, mais des pays qui sont très très à cheval, je dirais, sur les qualités, la qualité de l'air, comme la Suède ou la Norvège, importent des déchets. Ils importent des déchets de l'Union européenne pour les brûler, parce que ils estiment que c'est quelque chose de tout à fait rentable. Donc voilà deux pistes, l'incinération, le biogaz. La troisième piste que j'ai citée auparavant était de l'utilisation de certains déchets pour faire d'autres produits chimiques en chimie biosourcée. Maintenant, il y a des filières courtes, si vous voulez, qui sont très intéressantes. Par exemple, les papeteries ont beaucoup de déchets. Ils les utilisent très efficacement. Donc, ils brûlent leurs déchets, ils font l'électricité, ils font de la chaleur, qui font marcher toute leur usine. Alors, on peut imaginer que les déchets de poisson soient valorisables de cette façon. Bon, c'est à voir.
Vous parlez aussi des résidus de canne à sucre, notamment.
Exactement. Donc, il y a parmi les usines les plus performantes en termes d'utilisation des déchets, il y a les papeteries, il y a les sucreries. Parce que une bonne partie des déchets des plantes utilisées pour faire le sucre, en particulier dans le cas de la canne à sucre, ces déchets, qu'on appelle la bagasse, peuvent être brûlés. Ça brûle très bien. Et ça fournit plus que les besoins d'énergie de l'usine. Donc, c'est extrêmement intéressant. Les déchets, c'est une source intéressante d'énergie, mais limitée quand même.
Voilà, comme beaucoup d'énergies alternatives, c'est encore très très limité.
Oui, sauf que pour les déchets, on en voit mieux la limite, si vous voulez. Oui. Si vous prenez le solaire, le photovoltaïque, à la limite, on va dire, bon, on va mettre toute la France
en
panneau solaire. L'éolien, on peut en faire beaucoup.
Sauf que ce sont des énergies intermittentes.
On peut en discuter, si vous voulez. Mais en termes quantitatifs, il y a des quantités importantes qui peuvent être faites. Les déchets, vous voyez que la quantité de déchets disponibles est limitée. Non seulement elle est limitée, mais on tend à la réduire. On va partout dire « oui, faisons moins de déchets ».
Voilà.
Donc en fait, on voit que la source possible pour l'énergie, elle sera réduite.
Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Et je me permets d'avoir une dernière chose dans la matière, c'est que une partie des déchets doivent être retournés au sol comme engrais. Vous savez, autrefois on utilisait le fumier, et ben ma foi, c'est fait avec des déchets animaux, et on a toujours ce même besoin pour que les sols restent fertiles.
Autour de la question, l'énergie est-elle moteur du progrès? Pourquoi le cours du pétrole est-il en baisse et quelles sont les conséquences sur la transition énergétique? Réponse juste après Césaria Evora et Salif Keïta, Yamore sur RFI.
Je t'aime, mi amore, belli versi, ya na moko fie nero sila don kilile le ila kola ah ile nele muluku moso ni ya na moko fie soro fale moso nyuma na osikote no 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 ne kona ne ile lele fe
je t'aime mi amor
Não também viver sem medo e confiar, não era mais risão. Olhar de nós criança, da torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
Césaria Évora et Salif Keïta, Yamor est sur RFI. Paul Matisse, le pétrole est toujours le roi des énergies, hein, même si le charbon est en train de, la consommation de charbon est en train de remonter, on le disait tout à l'heure. Mais depuis l'été 2014, les prix du pétrole ont chuté de moitié. Hein, le brut est passé de 100 euros mi-juin à 39 euros le baril mi-janvier pour se stabiliser, c'est ce que j'ai lu il y a quelques jours, autour de 52 euros. Alors nous vivons une espèce de choc pétrolier à l'envers. Écoutez ce reportage d'Euronews, c'était en janvier dernier.
Première conséquence économique tangible de la baisse des cours du pétrole, le géant minier anglo-australien BHP Billiton va arrêter d'exploiter d'ici le mois de juin 40% de ses plateformes de pétrole de schiste aux États-Unis. Le pétrolier Total annonce lui une réduction de 2 à 3 milliards de dollars de son programme d'investissement par rapport à celui de l'an dernier. Pour Patrick Pouyanné, qui a remplacé Christophe de Margerie à la tête du groupe pétrolier français, la grande inconnue de cette tendance baissière, c'est sa durée. Sur le long terme, le monde a besoin d'énergie, donc les prix repartiront à la hausse, a-t-il dit depuis le forum de Davos où il se trouve, ajoutant que la baisse des prix du brut aura un impact plus important sur les gisements matures, ceux de la mer du Nord par exemple, que sur les gisements de pétrole et de gaz de schiste, notamment en Amérique du Nord. Ceci étant dit, les trois premiers groupes américains de services pétroliers ont déjà annoncé 17 000 suppressions d'emplois en réaction à la baisse des investissements des groupes pétroliers.
Voilà, les cours du pétrole baissent, il y a une surabondance de brut sur le marché. Alors, est-ce que c'est parce que, alors il y a la crise, hein, d'abord il y a la crise économique mondiale, et puis les États-Unis produisent beaucoup de pétrole de schiste, c'est ça qui a bouleversé les cours du pétrole, Paul Matisse?
Oui, écoutez, dans mon livre, je disais que l'augmentation du prix du pétrole était inéluctable. Ben effectivement, je me suis trompé. Alors effectivement, le prix a baissé. En bonne partie à cause de la crise économique, hein, c'est sûr ça. Il y a aussi eu des efforts d'utiliser moins de pétrole pour les transports, par exemple. Mais le facteur domine. Il y a deux facteurs qui sont sans doute dominants. Mais à la clé, effectivement, la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Ça, c'est devenu très important au point que les États-Unis sont devenus pratiquement autosuffisants en matière pétrolière, donc n'importent plus le pétrole qu'ils importaient du Proche-Orient. Et donc, de ce fait, il y a, comme vous disiez, du pétrole disponible sur le marché et donc les prix baissent. Maintenant, il est possible que la vraie raison, c'est que l'Arabie Saoudite a décidé que le prix allait baisser. Elle a décidé pourquoi ? Pour des raisons sans doute géopolitiques, pour mettre à genoux les producteurs américains. Parce que les producteurs américains sont capables de produire du pétrole de schiste si celui-ci est vendu à un prix élevé, je dirais 80 dollars le baril, quelque chose comme ça. Mais peut-être que s'il est à 60, ils ne pourront plus. Donc ils seront obligés d'arrêter leur production et on va revenir à une situation où les producteurs traditionnels du Proche-Orient, etc., seront maîtres du marché.
Alors qu'est-ce que ça veut dire concernant la transition énergétique ? Est-ce que ça veut dire que parce que le pétrole est moins cher, les États vont faire moins d'efforts pour favoriser les énergies alternatives ?
Ben c'est probable. Les États et les entreprises. Effectivement, le pétrole, sera plus rentable. Et en fait, les autres combustibles fossiles suivent, pas directement, mais suivent plus ou moins le pétrole, si vous voulez. Parce qu'ils sont, d'une certaine façon, pour certaines choses, interchangeables. Donc, en fait, ces produits, ces combustibles vont voir leur prix baisser. Et donc, les énergies alternatives, non carbonées, je dirais, seront moins rentables. Un exemple tout à fait clair a été aux États-Unis le développement des gaz de schiste qui sont devenus très concurrentiels pour l'électricité ont empêché toute nouvelle création de centrales nucléaires aux États-Unis. Mmh. C'est devenu totalement non rentable, donc il va falloir éventuellement attendre, je sais pas si vous voulez, mais pour le moment c'est non rentable. Et c'est pas, comment dire, pour les autres sources d'énergie, pour les énergies renouvelables, ma foi, les choses sont moins criantes dans la mesure où il y a une acceptation des États de subventionner, mais bon, je veux dire, c'est un problème de concurrence tout à fait clair.
Mais quelle est aujourd'hui la volonté politique réelle des États pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles polluantes, Paul Matisse?
Bah écoutez, on verra bien à Paris lorsqu'il y aura la réunion. Je pense
la réunion de novembre-décembre 2015.
Oui, exactement.
Sur le climat.
La COP21, ouais, sera la claire indication parce que tous les États disent qu'effectivement, je pense qu'il y a une reconnaissance de la nécessité de diminuer fortement nos consommations de combustibles fossiles, hein, pour les raisons de changement climatique. Maintenant, il faut bien voir que cela se fera dans la souffrance, à court terme. Hein, il faudra payer plus cher d'autres choses, il va falloir faire des efforts importants pour consommer moins de combustibles fossiles. Et donc, chacun plaide pour ses entreprises. Et donc, il y a une concurrence extrêmement vive. Et on verra bien si les États, mettent leur gestes en accord avec leur discours.
Hein, mais quels sont les leviers fiscaux, par exemple, qui peuvent être intéressants? Enfin, vous êtes pour la taxe carbone, par exemple?
Je suis absolument pour la taxe carbone. Absolument, oui, oui. Mais la taxe carbone est vraiment l'outil, a priori, le meilleur outil. Parce que ça permettrait de, à condition que ce soit pas quelque chose de figé et de réticulement faible, c'est quelque chose qui permettrait d'ajuster, si vous voulez, le prix des combustibles fossiles de façon à ce qu'ils deviennent, non pas, on soit pas découragé de les acheter, mais ils deviennent moins intéressants. Par contre, sa mise en œuvre pose de gros problèmes. Autant, à l'échelle d'un pays, ce serait pas difficile. Mm-hmm. Certains pays l'utilisent depuis pas mal d'années. La Suède a une taxe carbone depuis longtemps. Mm-hmm. La France pourrait avoir une taxe carbone. Elle l'a pas fait parce que, ou guerre, si vous voulez. Parce que bon, voilà, ça pose des problèmes. Les industriels disent oui, si on a la taxe carbone, nos produits vont coûter plus cher, etc. Donc, c'est un outil, mais il faudrait qu'il y ait un certain accord international. Et maintenant, avoir une taxe carbone internationale, bon, j'espère qu'elle sera décidée à Paris, mm-hmm, mais si vous voulez, ça semble pas évident du tout, parce qu'il faudrait que tout le monde se mette d'accord, et les pays qui souhaitent voir développer leur industrie, et qui ont besoin...
Les pays en développement,
ouais, ou même déjà un peu plus développés, comme la Chine, l'Inde, etc. Ma foi, ils ont besoin, d'une certaine façon, de combustibles fossiles pour que leur industrie se développe. Donc, est-ce qu'ils vont accepter une taxe carbone? C'est pas du tout évident, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a un autre levier fiscal intéressant?
Écoutez, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre, qui lorsque on pollue chez nous, enfin ce que on met en œuvre dans d'autres pays des mécanismes qui vont dégager moins de CO2. Par exemple, on va refaire de planter des arbres, etc. Oui. Mais en fait, ça c'est quelque chose qui a donné lieu à beaucoup d'abus et je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution, si vous voulez.
Je renvoie à votre livre, Paul Matisse, L'énergie, moteur du progrès, paru chez Quae. Merci beaucoup. Merci également à Charles Pélabon et Caroline Fillette. Demain, nous parlerons des crises de la biodiversité depuis la naissance de la Terre. À demain.